Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Bertie Bourdon, Emma Liechtenstein, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano, Luca Lazo et Laura Litoussi, réalisé par Vivian Lecuivre. Et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. Au pouvoir depuis 10 ans en Inde, Narendra Modi brigue un 3e mandat à l'occasion des élections législatives qui commencent vendredi, l'occasion d'une série sur la décennie Modi. On évoquait hier la croissance indienne, ce qui en profite et ce qui n'en profite pas. Demain, nous parlerons des ambitions de Delhi dans l'océan Indien. Aujourd'hui, le crépuscule d'un certain modèle agricole. Après le grand mouvement paysan de 2020 et 2021, des milliers d'agriculteurs se rappelaient en février au souvenir de Narendra Modi.
Nous avons pensé que donner plus de temps au gouvernement n'était pas approprié pour le moment. S'il y a une proposition forte, alors nous pouvons penser à leur donner plus de temps. Mais ils n'ont rien à offrir.
Je n'arrive pas à dormir la nuit parce qu'on vend nos récoltes en dessous de leur valeur. On doit de l'argent aux propriétaires des terres et à la banque. Nous, les agriculteurs, ne serions pas obligés de demander des prêts bancaires si nous étions rémunérés à un juste prix pour notre travail.
Les cultures étaient prêtes pour la récolte, mais sans prévenir, la pluie s'est abattue et a tout détruit. On a déjà perdu la moisson de l'été et maintenant, alors qu'on a besoin d'eau, le terrain est sec. On risque de perdre aussi la récolte de l'hiver.
Des cultures interrompues à mi-chemin, des fruits qui se gâtent entre les fourches des arbres et de longs convois de tracteurs qui roulent au pas, traînant derrière eux des chariots emplis de vivres, de bidons d'eau et de toiles de tente. En février dernier, des milliers d'agriculteurs indiens laissaient là leurs terres pour reprendre le trajet du Pendjab dans le nord jusqu'à la capitale Delhi. Une route qu'ils connaissent bien pour l'avoir empruntée déjà en novembre 2020 et les mois suivants jusqu'à un immense campement d'agriculteurs en grève à Singhu, épicentre du plus grand mouvement social de l'histoire. Cette année, alors que se profilent les élections générales, les agriculteurs du Pendjab veulent rappeler Narendra Modi à ses promesses d'alors. Certes, celui-ci avait bel et bien annulé 3 réformes de libéralisation de l'agriculture, renoncement inédit de la part du Premier ministre, mais les agriculteurs indiens se sentent toujours en péril. Endettement, matériel et produits plus chers, auxquels s'ajoutent des sols appauvris par les produits phytosanitaires et la monoculture, et une sont toujours plus aléatoires. Si cette mobilisation en Inde défend davantage les intérêts de la petite paysannerie contre le secteur agro-industriel qu'un changement de modèle productif ou une transition écologique, chacun voit bien que l'agriculture en Inde ne suffit plus à nourrir la population indienne, ni même les agriculteurs. Alors quel est le poids des questions agricoles dans les élections qui commencent vendredi? Un nouveau modèle peut-il naître? Bonjour Julie Jacquet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes doctorante en géographie à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes professeur à l'INALCO. Nous sommes également en ligne avec David Singh. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes chercheur en sciences politiques à l'Université de Copenhague. Et en septembre paraîtra l'ouvrage que vous avez coordonné avec Christine Molinaire, The Indian Farmers Protest, en 2020-2021 aux éditions Routledge. Alors, pour commencer cette discussion, il faut rappeler qu'en février, c'est tout récent, ont eu lieu de grandes manifestations de nouveau d'agriculteurs indiens contre Narendra Modi pour se rappeler à son bon souvenir. Qui en est à l'initiative de ces manifestations d'agriculteurs? David Singh, celles qui ont lieu en février, quels syndicats les ont mobilisés?
Alors il s'agit de 2 syndicats, un syndicat paysan et un syndicat de travailleurs agricoles qui faisaient tous les deux partie de ce grand regroupement qui avait été victorieux en 2020-2021, le SKM, le Samyukt Kisan Morcha, un regroupement d'organisations syndicales qui malheureusement à la suite d'élections en 2022 s'était divisé. Et donc c'est le front qui s'appelle non-politique, non-political, qui refusait d'aller dans les élections, qui a pris le devant de cette mobilisation en février 2024, avec l'idée de parasiter les élections qui arrivent et de remettre au centre des débats politiques et publics la question agraire et les promesses non tenues de Modi, notamment, essentiellement, la légalisation, en tout cas l'inscription dans la loi, de ce prix minimum garanti, de ce MSP, de Minimum Support Price, qui avait été promis par Modi à la fin du mouvement en 2021, mais une promesse non tenue.
Le fait de le faire entrer dans la Constitution, ce mécanisme de soutien des prix, c'était en effet une promesse de l'époque qui n'est pas tenue. Si on regarde aujourd'hui les revendications dans ces cortèges de manifestants, Julie Jacquet, on entend une pension de 5000 roupies pour les agriculteurs, c'est à peu près 56 euros, un allègement de leurs dettes, l'annulation de condamnations aussi contre des militants de 2021. Beaucoup ont été condamnés à l'époque, lors de ces manifestations, 2020-2021. Est-ce qu'on sait si beaucoup ont été arrêtés, beaucoup ont été condamnés et à quelle peine?
Oui, tout à fait. Alors, en 2021, lors de ce mouvement social qui a duré plus d'un an, l'État a répondu avec un dispositif répressif assez important, non seulement par de la violence face aux manifestants, mais aussi par l'arrêt des manifestants. Et donc, c'est des centaines de personnes qui ont soit eu des amendes, des peines ou des peines carcérales. Et donc, aujourd'hui, le mouvement actuel revendique leur libération ou l'oubli de ces peines.
Ils demandent aussi des enquêtes sur les 700 à 800 morts des manifestations 2021. Certains sont morts de froid, d'autres d'accidents, mais beaucoup aussi de violences policières. David Singh, vous étiez en Inde pendant le mouvement de contestation en 2020 et 2021. De quels cas témoigne-t-il en particulier de morts qui n'ont pas été élucidées, au sujet desquelles il n'y a eu aucune enquête?
Si vous voulez, il s'agit de paysans qui sont morts, comme vous l'avez dit, soit d'accidents routiers, soit de violences policières. Mais aussi, des fois, on a des noms précis. Et parmi les demandes des paysans aujourd'hui, c'est que, par exemple, le fils d'un des ministres qui est accusé d'avoir roulé sur des paysans en 2021 soit condamné et que son père, le ministre, démissionne. Donc on a des cas très précis où on peut nommer les gens qui sont accusés d'avoir tué des paysans, d'avoir violenté des paysans. On a des cas où des milices pro-gouvernementales sont venues attaquer des campements. Donc tout ça est largement documenté, tout ça est largement visible dans les médias, mais il y a pour l'instant une omerta judiciaire où peu de gens sont condamnés et en fait les véritables victimes dans ce programme, c'est les paysans et les manifestants qui ont été, comme l'a dit Julie, qui ont été condamnés, qui ont été accusés et qui ont été vilipendés dans les médias, accusés d'être des indépendantistes sikhs, d'être des nationalistes sikhs et d'être financés par le Pakistan. Et c'est là où est le problème.
On a essayé de les décrédibiliser, ces paysans. Alors, pour conclure peut-être sur ces revendications plus récentes d'agriculteurs indiens, certains demandent que l'Inde quitte l'Organisation mondiale du commerce, se retire d'accords de libre-échange. Mais il me semblait, David Singh, que l'Inde, justement, s'en tenait à distance des accords de libre-échange. L'Union européenne, par exemple, n'a jamais réussi à obtenir d'elle un accord. Donc, de quels accords de libre-échange parlent-ils, ces agriculteurs ?
Ici, ils font plus, de manière plus générale, ils font référence à cette néolibéralisation et marchandisation de l'agriculture qui date pas, en fait, des lois que Modi avait passées. Cette capitalisation et marchandisation de l'agriculture, elle date des années 90. C'est la vague de libéralisation de l'économie en Inde et c'est les premières coupes budgétaires dans les investissements publics pour les infrastructures rurales, c'est le démantèlement des structures institutionnelles de financement et c'est notamment la levée des restrictions quantitatives sur les importations de produits agricoles. Donc c'est l'idée que on va mettre en concurrence l'agriculture indienne avec les agricultures mondiales et c'est ce dont ont peur les paysans aujourd'hui et c'est ce dont ils ont combattu en 2020-2021, cette idée que on va être mis en concurrence avec l'agriculture mondiale et on va être les perdants de cette concurrence.
Narendra Modi voulait d'ailleurs aller plus loin dans cette libéralisation. Il a finalement décidé, il a surpris tout le monde en cédant sous la pression des manifestations d'agriculteurs en 2021 et en abandonnant trois réformes libérales.
C'est aujourd'hui l'anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev et c'est un moment où personne ne doit être blâmé. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que nous avons décidé d'abroger les trois réformes agricoles. D'ici la fin du mois, nous aurons achevé le processus constitutionnel au Parlement. Mes amis, je demande aujourd'hui aux agriculteurs qui protestent de rentrer chez eux, dans leurs fermes et leurs familles, en ce jour pieux des gourous. Prenons un nouveau départ.
Narendra Modi promettant un nouveau départ en 2021, il n'est pas allé au bout de ce nouveau départ puisqu'il n'a pas tenu certaines promesses comme le disait David Singh de faire entrer dans la Constitution le mécanisme de soutien des prix. C'est pour ça en pleine période de campagne électorale que les paysans indiens se rappellent à son souvenir aujourd'hui. Ce système de prix garanti, il faut y revenir, Julie Jacquet, expliquer comment il fonctionne. C'est la particularité de la révolution verte que l'Inde a connue dès les années 60. Alors pour le reste, rien de très différent de ce qu'ont connu les agriculteurs européens à la même période avec la PAC, soutien des prix, des intrants subventionnés et le début d'une hausse de la productivité des agriculteurs. Pour savoir si un nouveau modèle agricole indien peut advenir, encore faut-il comprendre et rappeler ce qui caractérise ce modèle actuel. Donc ce mécanisme de soutien des prix aujourd'hui, est-ce que les agriculteurs ont la possibilité de vendre sur les marchés contrôlés ou est-ce qu'ils en ont l'obligation?
Oui, alors vous avez tout à fait raison. Là, une des grandes particularités donc de cette révolution verte, qui est donc un ensemble de politiques basées sur les trois piliers qu'on voit un peu à travers le monde, donc les variétés améliorées, l'irrigation et l'utilisation d'intrants phytosanitaires. Une des grandes particularités indiennes est ce système interventionniste où l'État joue un rôle extrêmement important et jusqu'à aujourd'hui, malgré ces vagues de libéralisation qui ont commencé dans les années 90,
mais ouais. En fait, l'agriculture n'était pas tout de suite concernée.
Tout à fait. Donc, ce système de MSP, qui est un acronyme en anglais, qui signifie Minimum Support Price, ou prix de soutien minimum, c'est un système où l'État achète aux agriculteurs leur production certaines de leur production agricole. Les grandes cultures phares de ce programme ont été historiquement le blé et le riz.
Un peu la canne à sucre aussi dans une moindre mesure.
Tout à fait. Et donc l'État, dans certains marchés très spécifiques, des marchés de l'État, qui s'appellent les mandis, on en a beaucoup parlé lors des différentes manifestations depuis 2020, achète ces grains, les centralise et ensuite les distribue et les vend dans d'autres régions à très faible prix, voire même à des prix qu'on pourrait considérer comme symboliques. Donc c'est un système de redistribution quelque part.
Est-ce que c'est aussi cette production-là qui est distribuée dans les colis d'aide alimentaire dont on a beaucoup parlé depuis lundi dans cette série,
oui,
les 800 millions de colis alimentaires, c'est grâce à ce système
exact.
Aussi.
Exact.
D'accord. Donc ça, c'est la particularité de ce système qui a incité les agriculteurs aussi à produire toujours plus. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que de toute façon, ils pourraient écouler leur récolte. C'est ça ?
C'est ça. Donc ce système de MSP fournit des prix garantis, attractifs pour certaines productions. Et donc ça incite les agriculteurs à se concentrer en fait sur à faire des choix, à se dire on va réduire peut-être la diversité des cultures qu'on produit parce qu'on sait que pour le riz, le blé, le canne à sucre, on va obtenir des prix plus intéressants et on sait que ces prix-là ne changeront pas au cours de l'année.
David Singh, Julie Jacquet expliquait que quand l'économie indienne s'est libéralisée dans les années 90, l'agriculture au départ n'a pas été directement concernée, ça s'est fait plus progressivement. Comment est-ce que l'État indien a commencé dans les années 2000 à s'attaquer aux mandis, à ces marchés de gros publics ? Est-ce que c'était ouvertement ou de façon détournée ?
Alors si vous voulez, l'agriculture est une prérogative des États fédérés. Donc on a déjà, dès les années 2000, en 2006, l'État du Bihar par exemple, qui était revenu sur le système des mandis et qui avait mis à fin ce système de monopole d'État. Et donc, quand on regarde ce que donnent les résultats de cette libéralisation du marché agricole dans l'État du Bihar, on fait face à des paysans biharis qui sont parmi les plus pauvres en Inde et qui font partie de ces migrants internes qui vont dans des États plus riches, notamment dans l'État du Punjab, pour travailler comme travailleurs agricoles.
Juste pour expliquer, en fait, ils ne passent plus par ces marchés de gros publics, ils ne passent plus par ce système de soutien au prix, donc ils doivent passer des contrats avec des groupes d'agroalimentaires.
Exactement. En fait, ce qui a été mis en place dans l'État du Bihar, ce que les lois prévoyaient, c'était la fin de ce marché étatique, c'est la création d'un nouvel espace d'échange qui est extérieur aux mandis, qui est détaxé, où les paysans viennent négocier directement avec les acheteurs de l'agro-industriel. Et ce qui se profilait avec ces lois, c'était la généralisation d'une agriculture sous contrat avec des groupes privés qui, comme je l'ai déjà expliqué, pratiqués dans certains états de l'Inde, comme l'état du Bihar, et où on ne prévoit aucun prix minimum garanti et où se fondent des mécanismes de résolution des litiges qui sont
largement favorable aux acteurs privés. Les acteurs privés peuvent stocker autant de denrées agricoles qu'ils le décident. Dans ces contrats qu'ils établissent avec les agriculteurs, ils décident des denrées agricoles à produire, de leur montant, de leur chiffre, du nombre de denrées dont ils ont besoin, et aussi de leur prix. Donc on a un inversement, si vous voulez, du rapport de force qui se fait, où on passait d'un système étatique où les agriculteurs vendaient leur surplus agricole sur la base de l'offre disponible et non de la demande, à un système où c'est les agro-industriels qui vont définir les termes du marché et les termes du contrat.
Mais alors qu'ils aujourd'hui signent directement des contrats avec des groupes alimentaires ou qu'ils vendent à l'État selon ce système que vous nous décriviez, Julie Jacquet, de prix fixe ou de prix subventionné, de soutien au prix, quels agriculteurs aujourd'hui peuvent dire que leur activité est rentable, quel que soit le système auquel ils adhèrent? Oui, Julie Jacquet.
Oui, tout à fait. Alors, généralement, on dit que c'est uniquement l'irrigation irriguée est rentable. Donc, des agriculteurs qui ont accès aux infrastructures d'irrigation.
Donc, nappe phréatique.
Voilà, à travers des puits forêts qui coûtent extrêmement cher. Et généralement aussi, on dit que il faut avoir minimum 1,5 hectare de terrain pour avoir les revenus suffisants qui couvrent les frais qu'ils engendrent.
Ce qui est très peu d'ailleurs, 1,5 hectare, mais c'est la moyenne, David Singh. Aujourd'hui, une exploitation en Inde, c'est à peu près 1 à 2 hectares. En comparaison, la France, c'est 63.
Tout à fait. On a 86% des paysans qui possèdent moins de 2 hectares, ce qui les classe parmi les paysans marginaux ou petits paysans. Donc on fait face à une activité agricole qui est de moins en moins rentable, où la terre se morcelle de plus en plus et où l'agriculture produit de moins en moins. Et donc on a des foyers issus des zones rurales qui ne dépendent qu'à 23% en réalité pour leurs revenus de l'agriculture.
Et comme partout, ce sont ceux qui ont pu se moderniser, s'équiper, qui sont sortis gagnants. Est-ce qu'on peut parler d'une concentration aussi en Inde de grands groupes agricoles? Et revoilà les milliardaires Ambani et Adani qui sont un peu nos personnages. Enfin, ils n'arrêtent pas de revenir là dans cette série. On parle toujours de ces milliardaires Ambani et Adani qui sont proches de Narendra Modi, qui sont aujourd'hui dans tous les secteurs économiques, dans l'agroalimentaire aussi. David Singh.
Tout à fait. Adani s'est lancé dans l'agroalimentaire au début des années 2000. Elle s'est spécialisée dans le stockage et dans le transport des récoltes. Et les lois que Narendra Modi a tenté de faire passer en 2020, elles répondent précisément aux pressions de groupes industriels indiens qui étaient très favorables à une ouverture à la concurrence du secteur agricole. Il y a des journalistes qui nous ont rapporté que le groupe Adani pratiquait un fort lobbyisme dès 2018 auprès du gouvernement pour qu'il y ait une libéralisation de ce secteur. Et si vous voulez, c'était faire tomber le dernier vestige de l'État socialiste néruvien depuis la vague de libéralisation des secteurs industriels, énergétiques et bancaires en 90. Et c'est bien sûr en accord avec la version Narendra Modi, ce qu'on appelle capitalisme de connivence, ou crony capitalism, où on voit que c'est certains groupes privés qui sont proches du pouvoir qui sont largement favorisé dans les appels d'offres, dans les réformes agraires qui sont mises en place. Et ici, vous l'avez mentionné, c'est ces deux grands empires industriels, Ambani et Adani. Et les paysans nommaient bien évidemment dans leurs revendications, dans leurs slogans, ces deux groupes comme étant ceux qui allaient potentiellement les déposséder de leurs terres.
Qui les dépossèdent de leurs terres alors qu'eux-mêmes n'ont jamais mis les mains dans la terre, n'en connaissent pas l'odeur, n'en connaissent pas les difficultés, la sécheresse, l'humidité parfois. Ils ne connaissent pas cette terre-là que les paysans, eux, travaillent au quotidien mais dont ils ne peuvent plus vivre. Qui aujourd'hui, David Singh, en Inde, peut vivre de l'agriculture?
Essentiellement ceux qui peuvent mécaniser leur production, ceux qui peuvent agrandir leurs exploitations, essentiellement ceux qui ont été les grands vainqueurs de la révolution verte. Et au Punjab, ces vainqueurs de la révolution verte, c'est ceux qui ont pu s'équiper en tracteurs, ceux qui ont pu acheter des graines à haut rendement et des pesticides, ceux qui ont pu agrandir leurs exploitations et d'une manière générale embaucher davantage de journaliers. Donc c'est les grands exploitants, issus notamment des castes dominantes agraires. En Inde du Nord, il s'agit essentiellement des Jats, qui ont aussi été à la pointe du combat dans le mouvement social agraire et qui ont renforcé avec la révolution verte leur mainmise sur la propriété de la terre et qui ont aussi opéré une grande réorganisation des rapports de production au sein de ces villages. Donc c'est ces paysans-là, paysans qu'on peut appeler de rentier capitalistes, de capitalistes rentiers, qui possèdent des larges, très très larges exploitations qui aujourd'hui peuvent s'en sortir.
Donc on parle toujours de caste hein, dans l'agriculture indienne, ces catégories populaires, les Dalits, les Adivasis, les Dalits ce sont les hors-castes, les intouchables comme on les appelle aussi, des castes dans l'agriculture. Les agriculteurs indiens aujourd'hui sont parmi ceux qui le plus au monde, un jour de désespoir, mettent fin à leur jour parce que leur activité n'est plus rentable, parce qu'ils ne veulent pas partir, quitter leur village pour aller trouver un emploi en ville.
Il s'est suicidé. Un hectare de terrain, ce n'est pas assez pour vivre. Nous avions acheté un tracteur, mais nous avons perdu nos récoltes cette année-là. Ça l'a vraiment déprimé. De plus, nous avions dû emprunter près de 4000 euros pour rembourser les précédents prêts. Nous vendons le fourrage et le lait de nos vaches. Mais ici, c'est mal vu pour les femmes de fermiers de travailler à l'extérieur.
Une femme, la veuve d'un agriculteur qui s'est suicidé, Sarbit Singh, qui répondait à France 24 lors d'un reportage il y a quelque temps. Alors Julie Jacquet, l'autre difficulté à laquelle sont confrontés de plus en plus les agriculteurs indiens, c'est celle du climat, le dérèglement climatique, les chamboulements, la mousson notamment qui de plus en plus est déréglée, qui arrive de manière décalée avec un débit qu'on dit imprévisible aujourd'hui. Or, dans quelle mesure la mousson est depuis toujours déterminante dans l'économie indienne?
Oui, alors tout à fait, l'agriculture indienne, elle est extrêmement vulnérable au changement climatique, parce que comme on l'a dit, c'est environ 40% des agriculteurs qui sont dans un modèle pluvial, où ils dépendent de l'eau de pluie pour cultiver. Ils n'ont donc pas accès à que ce soit la grande ou la petite irrigation. Et donc, ils dépendent de cette stabilité de la mousson pour faire leur semis, pour planter certaines cultures à certains moments. Et donc, son dérèglement engendre énormément d'incertitudes pour eux, non seulement sur leur technique agricole qu'ils pratiquent, donc les semences qu'ils utilisent, les techniques qu'ils mettent en place, mais aussi ça questionne les variétés qu'ils cultivent. Qui sont pas adaptés à ce manque d'eau, à certaines sécheresses, à l'augmentation de température.
Entre parenthèses, il fait en ce moment 35 degrés à Bombay pour toute la semaine. L'année dernière, au mois de mars, il a fait jusqu'à 40 degrés à Bombay. On parle aujourd'hui de canicule hivernale. La mousson, c'est en juin, mais là, en ce moment, à Bombay, il fait déjà très chaud. Et de toute façon, c'est devenu quelque chose d'assez systématique ces dernières années.
Oui, tout à fait.
Donc, il faut trouver des espèces qui s'adaptent à la fois à des épisodes de canicule, à la fois donc à la sécheresse, bien sûr, et aussi des phases d'eau abondantes et presque incontrôlables, parce que la mousson, ça peut être ça aussi. Elles sont de plus en plus réduites dans le temps, mais très intenses.
C'est ça. C'est quelque chose qu'on voit en Inde, comme on voit ailleurs dans le monde également. C'est en fait de pouvoir s'adapter à tous les extrêmes.
Donc alors par exemple, vous avez, Julie Jacquet, fait votre thèse sur l'état du Karnataka. C'est un état qui depuis quelque temps fait la promotion d'une graine qui était cultivée avant la révolution verte, c'est le millet ou les millets, il y en a plusieurs espèces. Pourquoi est-ce qu'elle avait perdu de son intérêt cette graine-là?
Oui, tout à fait. Donc les millets sont une famille de céréales qui sont traditionnelles surtout dans l'Inde du Sud et qui était plutôt consommé avant la révolution verte ou à travers ces politiques dont on a parlé, du MSP, et aussi donc du système corollaire du PDS, donc de distribution alimentaire. Ils ont été complètement marginalisés. Les agriculteurs ont préféré cultiver donc les espèces pour lesquelles ils avaient ce MSP.
Parce que pour bien comprendre, donc le mécanisme de soutien au prix ne concernait pas le millet, ou alors dans une très moindre mesure, parce qu'il y a quand même des échelles, il n'y a pas que le riz et le blé qui sont subventionnés entre guillemets, mais il y a certaines céréales qui le sont, mais vraiment dans une moindre mesure.
C'est ça.
Et c'était le cas pour le millet pendant la Révolution verte.
C'était le cas au Karnataka pour le millet, une espèce en particulier, l'éluzine, qui, oui, sur papier, avait un MSP, mais qui était dérisoire. Donc il n'y avait aucun intérêt pour les agriculteurs de le vendre.
Et ces agriculteurs retrouvent aujourd'hui un intérêt à le cultiver.
C'est difficile de leur dire, préférez cette culture plutôt qu'une autre. Ici, la plupart des fermiers refusent de l'entendre. La majorité d'entre eux cultivent de la canne à sucre. Sauf qu'un champ de canne à sucre nécessite 120 fois plus d'eau que le millet pour se développer. Plus d'eau et plus d'attention, donc on leur répète régulièrement que le millet, lui, arrive à maturité en 2-3 mois à peine. Surtout, cela demande peu d'entretien et pour achever de les convaincre, je leur conseille de débuter par ce type de millet, le sorghum, et d'en semer autour de leur plantation ou de l'associer à d'autres récoltes.
Alors, est-ce que les agriculteurs indiens savent toujours cultiver le millet, Julie Jacquet, ou est-ce que des savoir-faire se sont perdus pendant la Révolution verte?
Oui, alors c'est très intéressant ce qui se produit actuellement au Karnataka. Donc, il y a un mouvement qui émane plutôt des villes, de la demande des consommateurs qui sont conscients de ces enjeux à la fois environnementaux, écologiques, mais aussi sanitaires. On parle beaucoup des limites nutritives du riz blanc et que le millet pourrait être un substitut intéressant au riz.
Et c'est plus protéiné en plus.
C'est plus protéiné, il y a plus de micronutriments, de fer, etc. Cet État a mis en place une campagne de promotion auprès à la fois des consommateurs mais aussi des agriculteurs, avec tout ce discours que les millets, c'est un peu une céréale miraculeuse, que c'est bon pour le consommateur parce que, donc pour les raisons qu'on vient d'évoquer, nutritionnelles, c'est bon pour l'agriculteur parce que ça nécessite moins d'eau, moins d'intrants, donc moins de coûts, et c'est aussi bon pour l'environnement parce que il n'y a pas ces intrants-là, etc., qu'on a beaucoup décrié pour leurs conséquences environnementales. Ensuite, oui, comme vous l'avez dit, depuis la mise en place de la Révolution verte, les connaissances liées à la variété aussi des millets se sont perdues. Et aujourd'hui, les agriculteurs, s'ils commencent à cultiver des millets, en fait, ils ne recommencent pas à une culture qu'ils ont arrêtée.
Oui, c'était peut-être leurs grands-parents ou arrière-grands-parents qui en faisaient, mais pas eux.
C'est ça, exactement. Mais ensuite, beaucoup d'agriculteurs continuent à en faire, mais juste pour la maison, juste pour la famille. Et donc, quand ils vont commencer à produire des millets pour vendre, dans le but de le vendre sur le mandi, au marché d'État, pour un prix garanti, ils vont prendre les techniques de la Révolution verte. Ils vont, bien sûr, oui, le millet résiste s'il y a une sécheresse. Oui, si les températures sont très hautes, et si il pleut pas, le millet risque de survivre, ce que d'autres cultures ne feraient pas. Par contre, il répond aussi très bien à l'irrigation et il répond aussi très bien aux engrais. Donc, si on met ces techniques héritées de la Révolution verte en place avec avec les millets, les rendements augmentent et évidemment, ça intéresse les agriculteurs.
Alors, David Singh, on entend bien qu'il y a aujourd'hui des initiatives, entre guillemets, soit d'État, vraiment au niveau d'État, soit au niveau d'agriculteurs pour changer de méthode, cultiver d'autres graines, mais avec toutes les limites et réserves que vient de soulever Julie Jacquet. Alors, de quelle agriculture rêvent aujourd'hui ces paysans qui manifestent en masse et encore aujourd'hui sur la route entre le Punjab et Bombay, outre le refus d'être exploité par l'industrie agroalimentaire, d'être livré en pâture aux grandes holdings tenues par des proches du pouvoir, est-ce que les agriculteurs et agricultrices, dans une moindre mesure, sont non seulement sensibles à la question écologique, mais demandeurs aussi d'un changement de modèle agricole?
Bien sûr, les paysans rêvent d'une agriculture qui leur permette d'abord de survivre et qui leur permette de garder leur lien avec la terre. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours mis au cœur de leurs préoccupations cette question du prix, du MSP. Parce que le MSP, c'est garantir la sortie du surendettement. C'est éviter probablement des suicides de paysans. Et c'est aussi offrir la possibilité aux paysans de diversifier leur culture.
Mais peut être aussi le transfert d'une monoculture à une autre, puisque en l'occurrence, en ce qui concerne le millet, c'est ce qui s'est passé dans cet état que Julie Jacquet a observé.
Bien sûr, et ça ne sera pas suffisant. Mais le MSP sera une première base sur laquelle tout cela pourra se construire. Et si on prend le cas du Punjab, tout le monde, tous les syndicalistes paysans font état de cette crise, de cet usage massif des pesticides, d'une nappe phréatique qui est polluée dans plein de parties de l'Inde, de cas de cancer, de déformation à la naissance, de tarissement de la fertilité naturelle du sol. Donc tout ça est largement reconnu par les paysans. Et ils savent que non seulement leur terre ne produit plus grand-chose, mais que leur santé est en jeu. Ce qui sera nécessaire pour arriver à un changement de régime agro-industriel, c'est d'abord combattre cette domination qu'a imposée la Révolution verte dans les esprits, cette domination des esprits, à savoir de ce régime techno-industriel qui gouverne l'agriculture en Inde, ce sera de combattre, bien entendu aussi, le régime agro-industriel qui, lui, n'a aucun intérêt à ce que les grands groupes agro-industriels n'ont aucun intérêt à ce qu'on change de régime, à ce qu'on passe à une agro-écologie, à ce qu'on change les méthodes de production. Donc c'est de l'État que ça viendra, c'est des groupes capitalistes que ça viendra, mais les paysans sont prêts et les paysans ont besoin d'une agro-industrie, d'une agriculture qui leur permet de survivre et qui leur permet de respecter leurs terres.
On peut citer quelques États aussi qui sont passés à l'agroécologie. Alors il y a l'Andhra Pradesh qui a formé 6 millions de fermiers, c'est un État de 53 millions d'habitants, donc 6 millions de fermiers formés à l'agroécologie, quelques pistes aussi d'adaptation dans le Rajasthan, le Telangana aussi, des systèmes de collecte de pluie, par exemple, des très très vastes systèmes de collecte de pluie qui auraient permis de renflouer les nappes phréatiques. Ce sont les travaux de Bénédicte Magnier qui en parle, des zones reboisées aussi dans certains de ces États. Mais aujourd'hui, quand Narendra Modi parle d'agroécologie, de quelle agroécologie parle-t-il ? De quelle agriculture rêve Narendra Modi, puisqu'on a beaucoup parlé de ce rêve qu'il ne cessait auquel il croit et auquel il incite tous les Indiens à croire. David Singh, lui, quelle idée en a-t-il de cette agriculture ? Est-ce qu'elle doit être simplement destinée à non seulement nourrir les Indiens, mais aussi se tourner vers l'export, donc continuer à être une agriculture intensive ? Ou est-ce qu'il commence à en parler autrement ?
Narendra Modi rêve d'une agriculture nationale qui serait au pas, qui serait le reflet de ses ambitions mondiales, de ses ambitions politiques. Et donc, l'agriculture qu'il a tenté, le modèle agricole qu'il a tenté d'imposer en 2020-2021 avec ses réformes, c'est un centralisme où finalement les États fédérés, qui étaient jusqu'à présent responsables de l'agriculture, devenaient inféodés au pouvoir central en matière de législation, en matière d'application des lois, en matière de perception des taxes. Ce qui, on peut comprendre, les rend dépendants financièrement à l'égard de Delhi, à l'égard du pouvoir central, et donc plus dociles. Donc Narendra Modi rêve de ce modèle où on a une Inde, un marché agricole. C'était le slogan qu'il a utilisé pour vanter les mérites de sa réforme, One India, One Agricultural Market, qui fait ici, bien entendu, écho au projet nationaliste hindou de saper l'identité plurielle, séculariste du pays en imposant une seule religion, l'hindouisme, une seule langue, le hindi. Donc l'agriculture dont il rêve, c'est une agriculture qui sert les intérêts du grand capital, de ces grands groupes agro-industriels avec lesquels il est proche, et d'une industrie qui est d'une agriculture qui est tournée vers l'industrie, qui est tournée vers l'exportation et qui est uniforme à travers toute l'Inde.
Vous parliez tout à l'heure de ces tentatives qui ont été faites au niveau du pouvoir en 2020 et 2021 de décrédibiliser le mouvement en parlant des agriculteurs comme d'illettrés manipulés par l'opposition ou par le Pakistan. Pourquoi le discours de Narendra Modi, et en particulier en campagne électorale, de discours dont nos invités lundi disaient qu'il visait à saper l'identité plurielle du pays au nom d'une idéologie nationaliste hindoue, pourquoi ça ne prend pas chez les agriculteurs ?
Si vous voulez, la contestation paysanne, enfin, tout ce discours nationaliste que Narendra Modi tente de mettre en place, il n'a pas pris dans le mouvement, il n'a pas pris dans la classe paysanne. Et c'est essentiellement les fruits, je dirais, de ce mouvement social pendant un an, dans lesquels on a vu apparaître une renaissance, en quelque sorte, de l'identité agraire, de l'identité paysanne attachée à la terre, d'une identité, certes, aussi de caste agraire, qui s'est faite au détriment de l'identité religieuse, qui, elle, était bien entendu beaucoup plus excluante, beaucoup plus clivante. Donc on a vu un rapprochement se faire autour de cette caste, de cette identité de caste agraire, avec notamment un rapprochement entre les paysans sikhs, les paysans hindous et bien sûr les paysans musulmans. Et donc, tout ce discours identitaire nationaliste a rencontré une forte résistance de la part des paysans indiens, parce que pendant ce mouvement-là, ces différentes populations, devenues de différentes régions de l'Inde, ont vécu ensemble pendant un an. Elles ont vécu dans des campements ensemble, elles ont préparé de la nourriture ensemble, elles ont mangé ensemble. Et donc toutes les divisions de caste, les divisions religieuses, les divisions linguistiques, régionales, ont pu être adoucies, ont pu être discutées. Et c'est des réseaux de solidarité intercastes et interreligieuses qui se sont forgés au sein d'un mouvement qui a constitué une menace très sérieuse pour la droite nationaliste hindoue et qui le constitue toujours aujourd'hui dans cette perspective d'élection.
Vive l'unité des paysans et des travailleurs, c'est un slogan qu'on a pu lire et entendre lors de ces grandes manifestations, qui est un slogan marxiste. Cette année, Julie Jacquet, Narendra Modi a-t-il essayé de contenir le mouvement, d'éviter que la contestation de février ne s'étende, d'éviter par exemple qu'il n'arrive jusqu'à Bombay?
Oui, tout à fait. L'État a répondu avec un dispositif de répression assez important qui a tout à fait rappelé des scènes de 2020 et de 2021. Il y a eu des barricades faites par la police pour empêcher les agriculteurs d'entrer dans Delhi. Ils ont bloqué aussi certains accès routiers entre Delhi, l'Haryana et le Punjab, donc deux États voisins. Ils ont mis en place un article, donc 144 de la Constitution, qui interdit le rassemblement de 3 personnes ou plus. Ils ont suspendu les services internet dans certains districts du Haryana. Donc il y a eu ces dispositifs-là, et il y a aussi eu la violence au sens premier du terme. Donc on a vu des scènes qui ont rappelé les manifestations d'il y a quelques années, l'utilisation de glace lacrymogène, les balles en caoutchouc, les jets d'eau, l'utilisation de drones pour surveiller les manifestants. Donc on revoit ces mêmes mécanismes pour effectivement réprimer et éviter que ces manifestants, qui aussi essayent de raviver en fait ces souvenirs de 2020 et de 2021 et la victoire qu'ils ont obtenue dans cette année, par contre, qui est une année électorale extrêmement importante.
David Singh, vous vouliez ajouter un mot?
Oui, tout à fait. Il s'agissait vraiment pour le gouvernement d'apprendre de ses erreurs de 2020-2021. Donc, comme l'a dit Julie, un appareil policier très, très musclé. Il s'agissait vraiment pour le gouvernement Modi de cantonner ce mouvement de résistance, cette rébellion à l'État du Punjab, de tout faire en sorte pour que ces paysans punjabis ne puissent pas atteindre Delhi, ne puissent pas faire la jonction avec les paysans de l'Uttar Pradesh, du Rajasthan, d'autres États voisins. Et c'est pour ça qu'il a remis en branle cette machine médiatique de vilipendage des paysans, de les présenter comme des marxistes, comme des pro-pakistanais, comme des pro-indépendantistes sikhs. Et malheureusement, si on regarde aujourd'hui l'état des choses du mouvement, ça a l'air d'avoir marché. Notamment, la violence policière a fait son effet. Plusieurs dizaines de paysans sont morts. Un jeune, Shubhkaran Singh, a été tué par la police. Donc on voit que finalement, cette pression du gouvernement a été telle, à la fois policière mais aussi médiatique, qu'aujourd'hui, le mouvement est toujours bloqué aux portes de l'État d'Haryana et n'a pas réussi à jongler.
Un tout petit mot pour conclure cette première partie, David Singh. Un État a imposé aujourd'hui les intrants chimiques sur son a interdit les intrants chimiques sur son territoire. C'est le petit État himalayen du Sikkim, mais de façon autoritaire. C'était en 2016 et en favorisant la poursuite de la monoculture. Je renvoie cette fois aux travaux de Frédéric Landy et Bruno Dorin. Comment se passera la révolution agro-écologique indienne si elle doit avoir lieu? Est-ce que c'est à l'échelle des États? Est-ce que c'est à l'échelle de l'État central? Est-ce que c'est à l'échelle de chaque exploitation? Comment peut se mettre en place une révolution agricole, cette fois-ci écologique, qui prenne soin des sols, qui prenne soin des nappes phréatiques, tout en faisant manger et en nourrissant les agriculteurs et la population indienne?
L'agriculture est encore une fois une prérogative des États fédérés. Donc à mon sens, c'est véritablement au sein de ces structures-là, au sein des États fédérés, que doivent avoir lieu ces initiatives. Et vous en avez cité quelques-unes, notamment en Inde du Sud. C'est au niveau des États, au niveau de la société civile, que pour l'instant, ces initiatives émergent. Mais malheureusement, elles sont toujours face à cet obstacle qui est à la fois l'État central, qui s'immisce toujours constamment dans les prérogatives des États fédérés. Et c'est bien entendu le capital agro-industriel qui lui fait tout pour que ces initiatives ne soient pas à grande échelle, ne soient pas généralisées. Et quand on regarde, par exemple, le programme du BDP pour les élections à venir, le programme du BJP qui a été publié il y a quelques jours, on n'a aucune mention d'initiatives agroécologiques. La seule mention qui y est, c'est la modernisation de l'agriculture, c'est les l'épanouissement des, je cite, hein, l'épanouissement des paysans, c'est une augmentation du prix du MSP, mais tout ça, on le sait bien, c'est des promesses qui n'entendent que ceux qui les croient.
Et Soubhash Palekar, lui, qu'on aime à citer en Occident, mais qui paraît-il est peut-être un peu moins cité régulièrement en Inde, même s'il est beaucoup suivi, ces initiatives-là ne suffisent pas ou ne sont pas toujours satisfaisantes, puisqu'il me semble que lui parle beaucoup, par exemple, de bouse de vache ou d'urine de vache qu'il faudrait utiliser pour refertiliser les sols, mais encore faut-il que la vache soit sacrée. Enfin, ça pose plein de questions qu'on avait déjà eu l'occasion d'ailleurs de soulever dans Culture Monde.
ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਘੇਰਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਘੇਰਾ ਓਏ ਬਾਪੂ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਖੜਾ ਏ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਖੜਾ ਏ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਾਇਦਾ ਸ਼ੇਰਾ ਸ਼ੇਰਾ
Balechira, des chanteurs du Punjab, Archima et Kanwar Grewal. C'est l'une des chansons qu'on entendait beaucoup dans les manifestations en 2020-2021 pour soutenir les agriculteurs et où les femmes étaient en première ligne.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Quand un homme travaille à la ferme, il ne pense qu'à l'argent et aux grosses décisions. L'approche des femmes est très différente. Elles pensent au foyer et aux besoins de sa famille, l'argent et la nourriture nécessaires à leur survie.
70% des femmes paysannes aujourd'hui assurent 80% du travail à la ferme, mais elles ne prennent aucune décision. Elles sont des assistantes, mais aujourd'hui, de plus en plus travaillent comme propriétaires.
Elles sont de plus en plus nombreuses à travailler dans le secteur agricole en Inde. Collecte, séchage, stockage des graines et des céréales, désherbage ou nettoyage des champs. Leurs activités sont qualifiées de travail domestique et donc absentes souvent des recensements officiels. Les femmes invisibles et fragiles dans un secteur qui est déjà en crise. Bonjour Floriane Boladzi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes post-doctorante.
Merci à vous.
Bonjour. Vous êtes chercheuse en socio-économique à l'université de Milan Bicocca. D'abord, cette femme qu'on a entendue, agricultrice dans le Maharashtra, elle a dit que des femmes sont propriétaires de terres. Est-ce qu'on sait la part qu'elles représentent à peu près ces femmes parmi les propriétaires terriens et si elles peuvent acheter ces terres ou si elles en héritent?
Oui. Alors, effectivement, elles représentent une toute petite minorité, les femmes propriétaires de terres. Selon les données, ça va de entre 15% à 25% des femmes agricultrices. Donc, c'est vraiment une minorité et nous n'avons pas de chiffres très, très fiables à ce niveau-là. Mais il y a des très fortes contraintes de nature foncière qui concernent les femmes en Inde rurale, puisque bien qu'elles aient des droits fonciers à la propriété et à l'héritage des terres, en réalité, ces droits sont très peu appliqués en raison de barrières dans la bureaucratie, de barrières de nature sociale, de nature discriminatoire. Donc il est très difficile pour les femmes de réclamer et obtenir des titres de propriété, alors que, comme je le disais, il existe des lois qui ont été renforcées au cours des années, avec des amendements qui faciliteraient justement l'héritage des terres pour les filles. Mais en pratique, les choses évoluent très lentement et c'est très difficile, notamment parce que, comme le disait David Singh tout à l'heure, selon la constitution indienne, la terre relève de la compétence des États fédérés. Et donc, il n'y a pas de loi uniforme dans tout le pays, ce qui fait que, par exemple, dans les États du Punjab, l'Haryana, l'Himachal Pradesh et d'autres États, la succession des terres aux filles est en pratique interdite. Donc, il y a vraiment aussi un paradoxe au niveau vraiment législatif.
Oui, un paradoxe, puisque tout ça se passe au niveau des États fédérés, et même dans certains États où les femmes ont le droit d'hériter ce qu'il a la majorité, soit elles ne savent pas, soit elles ne veulent pas, soit elles ne peuvent pas, comme vous le disiez, parce que globalement, les normes patriarcales restent la norme, avec quelques exceptions comme au Kerala. Mais comment expliquer, Floriane Boladzi, que alors que la main-d'œuvre agricole a beaucoup diminué au cours des 50 dernières années, on est passé de 46%, de 70% en 1971 à 46% aujourd'hui, la part des femmes, elle, en revanche, a augmenté.
Oui, alors le phénomène de féminisation de l'agriculture est lié strictement aux transformations économiques et au fait que l'agriculture n'est plus du tout suffisamment rentable. Donc les hommes partent à la ville chercher des emplois alternatifs non agricoles. Cependant, ces emplois restent précaires et sont aussi très peu rémunérés, très peu protégés. Donc, pour faire face à l'incertitude économique de ces emplois, l'agriculture n'est pas complètement abandonnée, n'est pas complètement substituée. Et comme le disait David Singh, malgré le fait que l'agriculture contribue à hauteur de 20% du revenu du foyer, elle constitue une ressource importante de sécurité alimentaire du foyer. Donc les femmes prennent en charge l'agriculture, alors que les hommes partent souvent en zone urbaine ou périurbaine pour travailler dans d'autres secteurs, notamment la construction. Mais comme elles ne sont pas propriétaires des terres, elles ne sont pas considérées comme fermières et n'ont donc pas accès au crédit, aux aides publiques, à l'assurance sur les récoltes, aux subventions pour l'irrigation, la technologie. Donc elles sont fortement discriminées et elles travaillent dans des conditions fortement défavorables.
Alors que le BJP, le parti de Narendra Modi, a fait de la protection des femmes, de la sécurité des femmes un slogan, est-ce que ça veut dire aussi leur sécurité financière, leur faciliter l'accès à un emploi, notamment dans l'agriculture, même si pour l'instant ce n'est pas satisfaisant comme vous le dites, est-ce qu'il y a néanmoins quelques efforts faits de ce côté-là?
Alors, il faut bien comprendre que le soutien des femmes, et en particulier des femmes agricultrices, constitue un bassin électoral très important pour Modi. Donc, il y a là un très fort enjeu politique électoral pour Modi, ce qui fait que Modi est obligé de prendre des mesures et de se montrer favorable à l'émancipation des femmes, à la reconnaissance des femmes en tant que fermières. Mais en réalité, ces efforts qui vont par exemple être illustrés par des mesures, par exemple le programme des Drone Sisters dont on parlera peut-être, qui a été mis en place récemment, mais ces mesures sont en fort contraste avec la rhétorique de la sécurité des femmes, la protection des femmes et la rhétorique de la respectabilité, la dignité des femmes, qui en réalité, dans un système fortement patriarcal comme celui de l'Inde rurale, pousserait les femmes, au contraire, à rester au sein de l'espace domestique, puisque travailler, effectuer des activités rémunérées est quelque chose qui est connoté très négativement dans ces sociétés. Donc il y a là, encore une fois, un paradoxe entre les mesures plus démagogiques prises par le gouvernement pour s'assurer le soutien de ce bassin électoral, et d'autre part, un discours fortement conservateur, fortement, qui appuie fortement les normes patriarcales au sein de ces populations.
Alors parlez-nous de ce programme des Drone Sisters. C'est donc un programme qui a été lancé il y a quelques mois par Narendra Modi, qui consiste à employer des femmes pour conduire des drones pulvérisateurs d'engrais au-dessus des terres agricoles. Mmh. Est-ce qu'on sait combien de femmes ont accédé à ce programme? Sous quel statut?
Alors pour le moment, il y a eu uniquement un projet pilote. 150 femmes ont été formées par l'Indian Farmers Fertilizers Cooperative, qui est le plus grand fabricant d'engrais chimiques du pays. Elles ont été formées au pilotage de ces drones. Et le programme vise à former au total 15 000 pilotes de drones. C'est un programme qui va coûter 150 millions d'euros environ au gouvernement. Et l'idée est vraiment de former ces femmes, des femmes qui appartiennent à des groupes d'entraide préexistants, et de financer une partie de l'achat de ces drones. Ce programme est intéressant dans la mesure où, effectivement, il y a une part de formation des femmes, donc formation professionnelle. Mais d'une part, bon, le nombre de femmes qui va être formées est très restreint. 15 000 femmes est un nombre très restreint à l'échelle de l'Inde.
1,4 milliard d'habitants.
Voilà. Et d'autre part, on voit là encore, en fait, l'effort du gouvernement de moderniser le secteur agricole, de promouvoir l'utilisation d'engrais chimiques avec des dispositifs qui faciliteraient justement la distribution d'engrais chimiques, mais qui en réalité ne résout pas et ne prend pas en compte le problème principal qui concerne l'émancipation des femmes dans le secteur agricole, qui est celui des contraintes foncières et du statut de fermière. Il y a eu un projet de loi en 2011 qui proposait justement de donner un certificat aux femmes qui ne possèdent pas forcément leurs terres mais qui cultivent les terres de leur mari, afin de leur faciliter l'accès aux subventions de l'État. Mais ce projet de loi a été abandonné et il n'y a plus eu de projet de loi depuis, ce qui montre que justement ces programmes comme le Drone Sister peuvent être intéressants du point de vue de la formation, mais en réalité restent très superficiels.
Des contrats de 5 semaines payés 50 000 roupies, ça fait un peu plus de 550 euros, ce qui représente, c'est vrai, oui, dans certains États, plus de deux fois le salaire moyen. Peut-être un dernier mot, Floriane Boladzi, sur ces femmes qui vivent dans des régions rurales d'Inde. Quelle mobilité sociale, entre guillemets, est-ce qu'elles peuvent espérer aujourd'hui?
Alors, on voit à l'échelle de l'Inde, donc rurale et urbaine, qu'il y a effectivement un peu plus de mobilité sociale concernant les femmes. Mais en Inde rurale, cela reste très, très, très limité. Ce qui est paradoxal, c'est que l'écart d'alphabétisation entre les hommes et les femmes en Inde rurale se réduit de plus en plus. Donc, les femmes ont accès à l'éducation et à des niveaux supérieurs d'éducation, supérieurs au primaire. Mais en fait, l'éducation n'est pas forcément très, très, très utile aux femmes, puisque la participation à l'agriculture augmente de plus en plus, et il y a eu une augmentation très forte aussi suite à la pandémie, ce qui montre que l'accès à des emplois plus rémunérateurs, à des emplois en dehors du secteur agricole, est très restreint et il n'y a pas de signe forcément très positif dans ce sens-là.
Merci beaucoup Floriane Boladzi, post-doctorante chercheuse en socio-économie à l'Université de Milan-Bicocca. Je renvoie vers votre article, pas par hobby mais par survie paysanne et ouvrière agricole indienne aux prises avec les réformes agraires et la crise pandémique, co-écrit avec Isabelle Guérin et Kaveri Haritas et paru en 2021 dans la revue Multitude. Un mot pour réagir, Julie Jacquet, à ce que disait Floriane Boladzi. D'un côté, on cherche des solutions pour que des femmes notamment puissent s'émanciper, gagner 550 euros en manipulant des drones. Mais d'un autre côté, c'est toujours au service de la même chose, du même système, d'une agriculture intensive. Et en fait, ça profite davantage au lobby des engrais, au commerce du engrais qu'aux femmes.
Oui, c'est très intéressant de voir cette question de la place des femmes dans l'agriculture. Il y a aussi énormément d'associations, d'organisations non gouvernementales et même d'acteurs du secteur privé, de petits acteurs du secteur privé qui veulent valoriser la place de la femme et avec des valeurs plutôt agroécologiques. Donc c'est très intéressant de voir cette pluralité d'initiatives et de visions qui ont place en Inde actuellement, et ça pose la question à grande échelle de comment est-ce qu'on sort de cette crise, avec quel modèle, avec quels acteurs. Voilà.
Merci beaucoup Julie Jacquet d'avoir été avec nous, doctorante en géographie à l'Université Paris-Nanterre et professeure à l'INALCO. Merci David Singh, chercheur en sciences politiques à l'Université de Copenhague. Et je rappelle qu'en septembre paraîtra l'ouvrage que vous avez coordonné avec Christine Molinaire. Ça s'appelle les manifestations des fermiers indiens en 2020-2021 aux éditions Routledge. Donc ce sera en anglais. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale. Vous commencez Laura Dulieu, votre revue de presse, avec la question de l'interruption volontaire de grossesse en Allemagne, qui, on le sait peu, est illégale.
L'article 218 du Code pénal de la République fédérale interdit en effet l'avortement, sauf en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère. Sauf qu'aucune sanction n'est prévue pour les femmes qui y ont recours jusqu'à 12 semaines de grossesse. En pratique donc, elles ne sont pas inquiétées. Chaque année, entre 90 et 100 000 femmes avortent en Allemagne. Mais elles commettent, écrit le Tagesspiegel, un acte condamnable par la loi, du moins en théorie. Car même impuni, l'IVG reste illégal, rappelle le Süddeutsche Zeitung, et constitue donc un fardeau pour les femmes concernées. Il s'agit là d'une grosse contradiction dénoncée lundi par un comité d'experts mandaté par le gouvernement des sociaux-démocrates, des Verts et des libéraux. Actuellement, l'article 218 du Code pénal n'est pas tenable. Le législateur devrait agir dans ce domaine et rendre l'avortement légal et impuni, selon l'avocate Liane Werner, membre de la commission sur la chaîne allemande ZDF. La commission propose aussi la mise en place d'éventuelles règles pour allonger ce délai. Sauf que le gouvernement de coalition, surnommé le feu tricolore, puisqu'il rassemble sociaux-démocrates, verts et libéraux, se montre très crispé et veut éviter toute polarisation du débat, explique le Süddeutsche Zeitung. Le rapport des experts a été remis au ministre de la Santé, de la Famille et de la Justice. Ce dernier, cité par le magazine, affirme que ce dont nous n'avons pas besoin, ce sont des débats qui enflamment la société. Tandis que le ministre de la Santé dit vouloir améliorer l'accès des femmes à l'IVG plutôt que de s'attaquer à sa légalisation en bonne et due forme. Accès très inégal selon les régions allemandes. En Bavière, par exemple, le Süddeutsche Zeitung affirme que les femmes ont beaucoup plus de mal à avorter qu'ailleurs.
Et de leur côté, les conservateurs défendent bec et ongles ce statu quo.
Synonyme de compromis selon le quotidien de droite Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui défend l'équilibre entre les droits des femmes enceintes et la protection des enfants à naître. Selon le journal Die Welt, le compromis qu'est l'article 218 a fait ses preuves dans la pratique. Il est donc préférable à de possibles divisions sociales. Pourtant, la situation des femmes souhaitant avorter est loin d'être enviable dans le pays, selon le Süddeutsche Zeitung, qui rappelle qu'en Allemagne, l'IVG n'est pas prise en charge. Les femmes doivent débourser entre 350 et 650 euros, bien plus si elles doivent être hospitalisées. Elles sont par ailleurs souvent humiliées et stigmatisées, ajoute le journal progressiste. Quoi qu'il en soit, la loi allemande est en décalage avec le mouvement de libéralisation de l'avortement en Europe, note la chaîne ZDF, y compris dans les pays catholiques comme l'Irlande et l'Espagne. D'un point de vue politique, les conclusions de la commission d'experts interviennent au mauvais moment pour la coalition gouvernementale, toujours selon la chaîne allemande. Les prochaines législatives doivent avoir lieu en 2025, trop peu de temps pour légiférer donc, mais tout juste assez pour que le sujet se retrouve au cœur de la prochaine campagne électorale.
Au Kenya, Laura, les hôpitaux publics sont quasiment désertés depuis plus d'un mois.
Presque tous les lits de la salle de travail de l'hôpital Kiara en banlieue de Nairobi sont vides, selon le correspondant au Kenya de la BBC. Seuls 3 sont occupés sur plus d'une douzaine. Une infirmière affirme que l'hôpital n'accepte pas les femmes qui ont besoin d'une césarienne, car il n'y a pas de médecin pour pratiquer l'opération. Les patients sont désormais obligés de se rendre dans des hôpitaux privés, coûteux s'ils le peuvent, ou bien de retarder leur traitement, ce qui entraîne, selon l'article de la BBC, une aggravation des maladies chroniques et parfois des décès. Les médecins sont en grève depuis mi-mars pour réclamer des hausses de salaire, de meilleures conditions de travail et l'embauche des internes. Ils se disent conscients des problèmes causés par la grève mais affirment à la BBC qu'une action revendicative est nécessaire pour aider le public à bénéficier de soins de santé de qualité à long terme. Leurs conditions de travail et le manque d'équipement les empêchant de soigner correctement les patients. Parfois, nous sommes juste là pour superviser la mort, lance par exemple le secrétaire général du syndicat des médecins à la BBC.
There is no way that the healthcare can function if we do not consider the human resource component of it.
Le système de santé ne peut pas fonctionner si le gouvernement ne considère pas la ressource humaine qui le compose, s'insurge cet autre manifestant au micro de la chaîne KTN News Kenya. Il y ajoute que les grévistes sont prêts à tenir 100, 200 jours, 100 ans s'il le faut. L'apaisement ne semble donc pas pour tout de suite, d'autant que pour montrer l'exemple, rappelle la BBC, l'hôpital public de l'université Kenyatta à Nairobi a licencié 100 médecins grévistes la semaine dernière et affirme en avoir embauché d'autres à leur place, tandis que le patron de la la police a demandé aux forces de l'ordre de traiter fermement les médecins en grève. En réaction, les médecins menacent de cesser les autopsies, de ne plus aller au tribunal témoigner dans les affaires qu'ils demandent. Et désormais, les médecins des cliniques privées s'apprêtent à rejoindre le mouvement. Côté négociation, le gouvernement a accepté certaines demandes du personnel soignant qui a rejeté les propositions, notamment à propos du salaire proposé aux internes, bien en deçà du montant convenu dans un accord de 2017. 2017, date de la dernière grève des médecins kényans. Elle avait alors duré 100 jours.
Merci beaucoup, Laura Dulieu.